La première lecture est dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. La seconde lecture est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 25. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ta parole, notre Dieu, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Voilà, il y a quelques jours, j'ai eu une brève conversation avec une personne visiblement navrée de ne pas trouver la foi qu'il aurait attendue dans le pasteur que je suis, ou que je prétends être, foi dans tous ces textes bibliques, dans tous ces textes de la sacro-sainte parole de Dieu. Mais il était évident que nous ne parlions pas tout à fait de la même chose, ou du moins pas sur le même registre, et qu'il y avait confusion dans nos deux manières d'interpréter et de vivre ce que la Bible appelle la foi. Alors ce dimanche, je voudrais revenir sur cet aspect de notre vie intérieure, parce qu'il peut toujours y avoir confusion pour nous tous lorsque nous abordons le sujet de la foi, et après tout, c'est bien normal parce que dans notre parcours de vie, en dehors de nos contacts avec une communauté religieuse, rares sont les lieux où le thème de la foi est abordé. Et même en Église, dans nos Églises, on considère ce thème, la foi, comme quelque chose d'acquis, peut-être de tellement évident, que nous avons tendance à la passer finalement sous silence. Alors prenons justement le temps ce matin de méditer sur cette évidence qu'est la foi. On ne va pas se mentir, en ce moment, avec tout ce qu'on voit dans notre monde, ce serait une bonne chose que de muscler un peu et de fortifier notre foi. D'ailleurs, c'est Marc Pernaut qui dit que le culte est comme une salle de gymnastique à laquelle on va une fois par semaine pour muscler notre vie spirituelle. J'aime bien l'image, mais c'est tout à fait ça. Bienvenue au club. Et peut-être qu'avant de parler de la foi proprement dite, il faudrait juste éclairer le malentendu dont j'ai parlé plus haut. La personne passionnante et toute passionnée avec qui j'étais en conversation me parlait sur le registre du contenu de la foi, alors que je parlais de la foi comme d'abord une attitude, un cheminement, un déplacement permanent. Pour le dire brièvement, certains pensent que la foi s'apprend, son contenu, sa logique, ses doctrines, ses pratiques, et que la vie consiste à garder cette foi intacte jusqu'à la fin de sa vie, et au-delà selon la foi. C'est une manière de voir, de comprendre la foi. J'ai trouvé, ça y est, et je passerai toute une vie à confirmer ce que je crois être la vérité et la bonne chose à croire. Alors bien sûr, une telle attitude, faite de certitude, fuit toujours, par principe, le doute, la remise en question, la réflexion, le bon sens et plus globalement le questionnement. C'est une foi soumise. Or, il semblerait plutôt que la Bible nous présente la foi comme quelque chose de dynamique, toujours appelé à se déplacer, à s'élargir et à se vivre dans une grande liberté. La foi est quelque chose de vivant qui doit s'adapter à chaque personne, à chaque époque, à chaque culture, et on comprend bien qu'elle ne peut pas rester figée, sinon elle meurt. La foi, en fait, c'est comme un papillon qu'on regarderait voler dans un jardin qui est difficile à observer, bien plus qu'un papillon dans sa cloche en verre épinglée avec son étiquette au-dessous. Pour prendre une image. La foi est un éveil des consciences, disait dimanche dernier le pasteur James Woody dans son sermon, et vous l'entendez, la foi est un éveil des consciences, on est bien au-delà du contenu bien cadré, bien orthodoxe, qu'il faudrait absolument garder et préserver jusqu'à la fin. La démarche spirituelle commence par un minimum de curiosité, un minimum de questionnement, un minimum de remise en question. Celui qui est figé, arrêté, enfermé dans ses certitudes, sclérosé dans son savoir, comment pourrait-il prétendre à une foi vivante si elle ne s'interroge pas? C'est une vraie question. Mais c'est vrai tant pour le sceptique qui pense que ce n'est pas la peine de chercher parce qu'il n'y a pas de réponse, que pour le dogmatique qui dit qu'il ne faut pas chercher car il a toutes les réponses. Alors, entre le scepticisme et le dogmatisme, la démarche de foi peut peut-être trouver un juste équilibre dans une de ces trois notions qu'on peut chercher, on peut approfondir, on peut éventuellement, ces trois notions peuvent éclairer notre notion de la foi, l'écoute, la marche et la confiance. Oui, la foi dynamique commence sans aucun doute par le faire silence et par l'écoute. Un silence qui permet d'entendre penser son âme. C'est l'écoute de son cœur, mais en résonance avec le monde. Comment Dieu me parle à travers les circonstances qui me touchent. Alors toujours James Woody, la semaine dernière, dans son sermon, disait, je cite, écoutez bien, c'était pas une prédication du tout sur la foi, mais c'était au milieu de son sermon, donc je l'ai retiré. La foi est une sensibilité à ce qui se passe, à ce qui advient. C'est un regard ouvert et pénétrant sur les situations, sur les personnes. La foi, c'est le fait d'être concerné par ce qui se passe. Et j'aime beaucoup cette définition, et cette sensibilité commence dans le silence et l'écoute. Un peu comme notre prophète Élie de la semaine dernière. Dans ce silence intérieur et ce que j'écoute et qui met ma foi en route, c'est la place qui doit être la mienne dans le monde. Le geste qu'il faut faire au moment approprié, le geste approprié au moment approprié. C'est je dois écouter la parole appropriée que je dois donner à la personne appropriée. C'est tout cela qui se joue dans la foi. La foi, c'est cette dynamique en moi d'écoute de l'autre, de moi-même, du monde, et de ce que l'esprit traduit de tout ça dans mon cœur, dans mes paroles et mes attitudes. Oui, la foi est en nous ce traducteur qui nous dit comment traduire l'amour de Dieu en prière, en paroles et en actes pour le monde. Et nous sommes tous concernés. Et pourtant, nous n'avons pas la foi pour aimer Dieu. Mais, parce que Dieu nous aime, nous avons la foi. C'est lui qui nous aime le premier. En d'autres termes, l'amour de Dieu n'est pas la conséquence de la foi, mais il la précède. C'est son origine. On trouve cette idée dans un verset de la première épître de Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et pour rappel, dans la Bible, l'amour de Dieu est absolument inconditionnel. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de nous, ni de notre foi, mais totalement de lui. Si je suis juste, pieux, altruiste, dévoué, droit, généreux, eh bien je suis aimé de Dieu. Si je suis fanfaron, orgueilleux, méprisant, colérique, adultère, cupide, envieux, jaloux et capricieux, je suis aimé de Dieu. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens et qui le rappelle, qui en parle. Regardez, nous, dans notre logique humaine, lorsque nous pensons à l'éducation, nous avons tendance à privilégier l'impératif. Fais ceci, fais cela, apprends tes leçons, va à l'école, écoute ton professeur, écoute tes parents, obéis. Voilà, et avec tout ça, tu deviendras quelqu'un de bien. Paul, lui, inverse la perspective quand il parle aux Corinthiens, qui eux sont indisciplinés et querelleurs. Il commence par leur dire « Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Vous êtes pur, vous êtes sans levain. » Vous avez été lavé, vous avez été consacré, vous avez été justifié, vous avez été acheté à grand prix. Et ce n'est que dans un second temps que ces affirmations sont suivies d'exhortations à l'impératif pour les inviter à devenir ce qu'ils sont déjà en Christ. Cette articulation entre l'indicatif « vous êtes » et l'impératif « devenez ce que vous êtes » c'est bien la marque de la théologie de la grâce que l'on trouve chez Paul dans toutes ses lettres, dans la plupart de ses lettres. Contre la logique humaine qui dit que c'est en se comportant comme des justes qu'on devient juste, l'apôtre inverse la perspective et annonce aux Corinthiens qu'ils sont justes avant de les inviter à vivre cette justice. Et Luther a résumé ce renversement en écrivant « Ce n'est pas en faisant ce qui est juste que nous devenons justes, mais c'est en tant que nous sommes justifiés que nous faisons ce qui est juste. » Alors on l'entend, selon cette lecture, la démarche de foi se déroule en deux temps. Le temps de l'indicatif, qui est celui où j'entends que je suis aimé, tel que je suis, même si au fond de moi je me sais pas très aimable, et c'est ce temps où j'entends que ma vie n'est pas un îlot de hasard dans un océan de nécessité, mais qu'elle est précédée, accompagnée, attendue par et dans l'amour de Dieu. Et une fois que cette parole est accueillie, il me reste le second temps de la foi qui consiste à vivre ce que je suis. Pour y arriver, alors là, c'est un long processus, c'est le combat de toute une vie. Alors on y revient, cette compréhension écrit la foi sur le registre du chemin. Charles Péguy a écrit qu'il n'y avait pas trop de toute une vie pour que l'eau versée le jour de notre baptême sur notre tête descende jusqu'à nos pieds. Et vous le comprenez qu'avec l'eau comprise comme le symbole de la grâce de Dieu, il voulait dire que le combat de toute la vie chrétienne consiste à faire en sorte que cette grâce viennent habiter la totalité de notre personne, pas seulement nos pensées, mais nos paroles, nos actions, nos désirs, nos rêves, tout ce qu'il y a de plus profond en nous. Oui, contre une compréhension statique qui consiste à croire que la foi n'est qu'une question de croyance, le Nouveau Testament rappelle que la foi est un mouvement, une marche, un mouvement de conversion, un mouvement de changement de regard permanent. C'est une dynamique de tous les jours pour me conduire à devenir de plus en plus ce que je suis en Christ. Et c'est ainsi qu'après avoir entendu la bénédiction de Dieu sur lui, après avoir compris qu'il était précieux aux yeux de Dieu, aux yeux de cette divinité qu'il entendait, Abraham s'est levé, a quitté la foi de son père, de ses pères, et s'est mis en marche, a quitté Charan, sans savoir où il allait. De l'écoute, il est passé à la marche. La foi se déplace, elle évolue. Mais comme pour Abraham, elle doit avancer et évoluer dans la confiance. Parce que c'est au fur et à mesure de cette marche que nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, mais que le Christ est notre compagnon de route pour éclairer les différents domaines de notre vie. Et chemin faisant, notre confiance grandit. Car plus nous marchons avec lui, plus il nous fait comprendre que si nous pouvons risquer la liberté, c'est que nous avons l'assurance que Dieu n'est pas un juge qui nous attend au premier faux pas, mais au contraire, il nous le présente comme un Père qui donne tout ce qu'il a pour que nous puissions avancer librement. C'est le Christ vivant qui chemine avec nous, qui, avec, par son esprit, nous guide, guide le nôtre, nous rassure, nous encourage, nous relève, nous libère, nous appelle, nous envoie et nous remplit de confiance. C'est le sens même de son invitation à ne pas nous inquiéter, qu'il répète encore et encore tout au long de ses évangiles. Dans ses discours, ça revient en permanence, une autre manière de nous dire « marchez et vivez dans la confiance ». Il inscrit en nous le cœur de l'Évangile. La foi, c'est donc pour nous cet appel à vivre et à marcher selon l'Esprit, dans la confiance, en étant à l'écoute des principes et des conseils de l'Évangile. Voilà ce que nous dirons de la foi ce matin, qui se nourrit de ces trois notions, l'écoute, la marche, la confiance. Peut-être que pour le tourner en une phrase à retenir plus facilement, on peut voir la foi comme la marche d'une vie dans la foi et la confiance. Et peut-être une toute petite nuance pour terminer, la foi c'est quelque chose de très bien, parce qu'elle aide celui qui travaille à avancer sur son chemin de vie pour faire les bons choix et voir les choses peut-être un peu différemment de celui qui ne l'a pas. Parce que la foi, ça fait briller l'invisible dans les moments les plus obscurs de nos vies. Donc c'est important de la posséder, on le sent bien. La foi, c'est quelque chose de même très souhaitable pour l'être humain. Mais, pour autant, il y a une chose plus importante encore que nous rappelle Paul dans sa première lettre aux Corinthiens et sur laquelle, frères et sœurs, je vous laisse méditer. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen.